Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Vous aviez aimé notre tombola de l'année dernière ? Radio Judaïca frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer. Un séjour d'une semaine pour deux personnes au nouveau Club Med à Marbella, une photographie de Didier Engels Photographie, un iMac 24 pouces, un iPhone 13, une initiation au golf des 7 fontaines, un maillot de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetweb.fr/super-tombola-radio-judaïca. Prix du billet 25 euros, prix d'un carnet 200 euros. N'oubliez pas, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance!
Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïca 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaica.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Laetitia Durst. Bonjour Laetitia.
Bonjour Frédéric.
Alors je résume votre parcours. Vous êtes historienne de l'art, diplômée de l'Université libre de Bruxelles. Vous avez consacré votre mémoire de fin d'études à la prévention contre le vol d'œuvres d'art dans les musées en Belgique et celui de votre post-graduat d'expert à la VUB à l'analyse de certains phénomènes du marché de l'art qui posent la question « Est-il possible de créer la valeur des œuvres d'un artiste ?» Vous avez ensuite été assistante chez Sotheby's avant d'intégrer à Maastricht la galerie Northman Master Paintings. Par la suite, vous avez rejoint l'atelier de la créatrice Isabelle de Borgrave. Vous êtes consultante pour le programme des jeunes patrons de Beaux-Arts et directrice générale du festival Muse Salentine situé à Alessano en Italie. Aujourd'hui, c'est en tant que directrice du département promotion du groupe Outhear que nous avons le plaisir de vous recevoir. Je vous propose de débuter notre entretien avec l'Allegro non molto du concerto en mi de Pierre-Gabriel Buffardin. Olivier Riel est à la tête de l'ensemble Le Petit Trianon. L'Allegro non molto du concerto en mi de Pierre-Gabriel Buffardin. Olivier Ril est à la tête de l'ensemble Le Petit Trianon, une parution du label Richard Carr. Alors dites-nous Laetitia, qu'est-ce que le groupe Out Here ?
Alors le groupe Out Here, c'est un groupe indépendant de production et d'édition de musique classique principalement, mais ça va de la musique ancienne jusqu'à la musique contemporaine, en passant par le jazz et la musique du monde.
Alors, quels sont les principaux labels de ce groupe ?
Alors, ça regroupe une dizaine de labels, notamment Alpha Classique, qui est le label le plus important, qui reprend, par exemple, Véronique Jean, Sandrine Pio, mais aussi des interprètes comme Nelson Gurner. C'est assez vaste.
Il y a fantastique,
oui. Oui, magnifique. Oui. Fuga Libera, qui est un label belge, qui est un peu à l'initiative de ce groupe Out Here, justement.
C'était le premier label ?
C'était le premier label du groupe. Il y a Arcana, qui était à la base français, mais qui maintenant est plus focalisé sur des interprétations de musique italienne et des interprètes italiens. Il y a Ramé, musique ancienne. Il y a Hot Note, qui est plutôt un label de jazz. Et alors, il y a, entre autres, deux labels un peu particuliers. C'est Phi, qui est en fait le label de Philippe Herweg. On a créé son propre label.
Tout le monde connaît la réputation internationale.
Exactement. Et alors, Fabrizio Cassol avec Akamoun. On a créé Instinct pour lui. Donc, il y a encore d'autres labels. Récemment, on a racheté, par exemple, Channel Classics.
Formidable label anglais.
Exact, oui. Donc. Avec, qui a notamment enregistré Rachel Podgers, Ivan Fischer. Donc, c'est une nouvelle collaboration qu'on va monter
prochainement. Alors, à l'origine de cette initiative du groupe Out Here, on trouve un personnage, Charles-Adrien Selm. Quelle était sa motivation ?
Alors à la base, c'était avec Michel Stockheim, donc il avait racheté le label créé par Michel Stockheim.
Et, qui est au Conservatoire de Mons maintenant.
Exactement. Et du coup, au fil d'une aiguille, c'était un mélomane, donc il s'est un passionné de musique et il a commencé à racheter d'autres labels, Alpha, Richard Carr. Et petit à petit, il s'est dit, je vais regrouper tous ces labels sous une antenne, Out Here Music, qui va permettre d'aider, que ce soit pas quelque chose de très intimiste et confidentiel, mais qu'au contraire, qu'il y ait une exposition au niveau mondial, que ce soit desservi dans le monde entier, qu'il y ait une promotion qui puisse... C'est un peu une économie d'échelle aussi, c'est de pouvoir servir plusieurs labels et d'offrir une qualité de promotion et de diffusion à ces labels.
En fait. C'est aussi une manière de promouvoir des artistes, de les soutenir Out Here en Europe, c'est assez unique. C'est une chance pour la Belgique d'avoir une initiative pareille, parce que c'est un des plus grands groupes indépendants de production de musique classique à l'heure actuelle.
Effectivement, c'est vraiment c'est un groupe qui devient de plus en plus important, mais qui reste humainement très, très proche des musiciens et qui, à l'écoute des musiciens, que ce ne soit pas uniquement de faire des produits commerciaux, c'est même pas ça du tout l'idée, c'est plutôt des biens culturels, de trouver des répertoires inédits ou des interprétations assez extraordinaires et de donner un peu carte blanche à ces musiciens, enfin, tout en restant en concertation avec eux, mais de leur permettre de pouvoir jouer, interpréter des œuvres magiques et en même temps magiquement, si je puis dire, interprétées. Oui.
Alors, comme vous nous l'avez dit, il y a 10 labels qui se trouvent sous le chapeau de Out Here. Est-ce que tout est centralisé ou chaque label a un directeur artistique ?
Alors, je dirais un peu des deux. Donc, chaque label garde son indépendance, son ADN, et c'est un peu le fer de lance de Charles, c'est que chacun garde son identité propre, mais les projets, entre guillemets, sont soumis à la direction et en fonction des budgets, des possibilités, sont acceptés.
C'est devenu des discussions âpres en réunion, faut-il le faire ?
Sûrement, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que sûrement, il y a Jérôme Lejeune qui est quand même une personnalité forte et je crois que lui...
C'était à la tête du label Richard Carr.
Exactement. Mm-hmm. Et lui, chaque projet est unique, enfin... Et du coup, défend corps et âme.
Oui, je pense que c'est nécessaire quand on est directeur artistique d'être passionné et donc de défendre avec passion ses projets.
Exactement, oui.
Jérôme Lejeune, que nous avons eu le plaisir de recevoir d'ailleurs dans cette émission. Alors dites-nous, pour qu'on ait une idée, Out Here, c'est combien de productions par année en moyenne ?
Alors c'est énorme, c'est 180 plus ou moins.
180 ?
Oui, c'est exponentiel. En plus, pensez avec la pandémie et beaucoup de productions ont été enregistrées, les musiciens en ont profité pour enregistrer, du coup on a énormément de productions. Tant mieux.
Tant mieux, oui, c'est formidable. Vous êtes venu les bras chargés de nouveautés donc pour ces labels que vous défendez, et je propose de commencer par écouter un extrait de Passion, le nouveau disque de la soprano française Véronique Chance. Écoutons, voici le favorable temps, extrait du Triomphe de l'amour de Jean-Baptiste Lully. La soprano Véronique Chance est entourée de l'ensemble Les Surprises sous la direction de Louis-Noël Bession de Camboula.
Oubliez vos ennuis, cœur tendre, cœur sans.
Voici le favorable temps, extrait du Triomphe de l'amour de Jean-Baptiste Lully. Véronique Jean s'était accompagnée de l'ensemble Les Surprises sous la direction de Louis-Noël Bestion de Camboula, une parution Alpha Classique dont la directrice de communication Laetitia Durs est notre invitée. Alors, Véronique Jean est une des grandes stars du chant en France. Selon vous, Laetitia, qu'est-ce qui l'a poussée à rejoindre le groupe Alpha ?
Je crois que c'est suite à une grande amitié qui est toujours actuelle d'ailleurs avec Sandrine Piau. Et elle a rejoint, elle a fait pas mal de projets aussi avec Didier Martin, où elle était peut-être chanteuse invitée. Et je crois qu'il y a de là est découlé une sorte d'amitié, de confiance, de respect. Et elle a commencé à faire plusieurs projets avec nous.
Comment décririez-vous son album Passion, qu'il vient de sortir maintenant, dont nous venons d'écouter un extrait ?
Alors c'est un album, je crois que le terme passion était assez bien trouvé, donc c'est une rencontre avec Louis-Noël Bestion, et qui, je ne sais pas si vous voyez l'abbaye en Brenais, où ils ont travaillé sur un projet ensemble, et de là a découlé une sorte d'euphorie musicale, on va dire ça comme ça, et qu'ils ont commencé elle a voulu faire un projet avec eux, et donc elle a... Louis-Noël a imaginé une sorte d'opéra imaginaire avec des thèmes bien définis, différents, autour de la passion. Et donc, c'est tous des extraits d'opéra mis l'un derrière les autres qui a formé ce projet Passion. Donc, c'est des airs d'opéra, en gros.
Et c'est un grand privilège parce que c'est une soprano qui est vraiment connue pour défendre ce répertoire et qui a été découverte, d'ailleurs, dans un opéra de Lully, je pense, il y a 20 ans, avec William Christie. Alors, dites-nous, Laetitia, vous êtes donc directrice de communication. Les médias traditionnels comme la radio, la télévision, les journaux, demeurent-ils toujours les principaux canaux pour promouvoir des artistes ou est-ce qu'Internet est devenu le canal privilégié pour atteindre le public ?
Alors, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Les médias traditionnels restent très importants. Je crois que le fait de passer à la télévision, à la radio ou un article est détonateur pour... Enfin, très important pour les musiciens, mais je pense que l'Internet peut être un excellent relais. Par exemple, un podcast qui peut être sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui n'écoute pas spécialement votre radio, par exemple, tout d'un coup pourrait découvrir...
Elle est disponible sur Internet.
Voilà. Et donc c'est un excellent relais. Et de plus en plus, quand on signe des nouveaux artistes, s'ils ne sont pas présents au niveau des réseaux sociaux, ou qu'ils n'ont pas une communauté, ce qu'on appelle digitale, il faut vraiment qu'ils soient vraiment des artistes excellents, 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 parce que de plus en plus, les musiciens doivent être tournés vers le monde, vers le public, et être plus proches des publics. Quoi.
Et donc, le groupe Out Here, par exemple, a développé une stratégie pour assurer la présence de leurs artistes sur Internet ?
Oui, on est en train de revoir d'ailleurs complètement notre site Internet qui va bientôt être disponible. Et il y a une communauté digitale qui s'occupe que de ça, et des réseaux sociaux, des newsletters, comment aussi conseiller les musiciens, parce que parfois ils sont un peu dépourvus, et comment on peut, entre guillemets, les aider à être présents sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, ou par exemple faire des petites capsules vidéo qui ont de plus en plus de succès, et les conseiller.
Moi, personnellement, je trouve que c'est indispensable.
Voilà.
Avoir cette petite capsule vidéo qu'on peut mettre et sur YouTube, et ça donne directement une autre dimension pour faire connaître le projet ou le nouvel album d'un artiste. Oui, je trouve effectivement.
Parce que je crois qu'il faut vraiment se démarquer par rapport à tellement de projets qui sortent, et du coup, si on n'a pas une présence, c'est plus compliqué, je dirais.
Oui, je pense. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous de choisir des artistes qui savent communiquer, ou vous faites un petit peu abstraction ?
Mais c'est ce que je disais juste avant, c'est effectivement c'est un critère qui rentre en ligne de compte, que ce soit des musiciens qui ont une communauté, qui s'intéressent aux réseaux sociaux, qui sont en contact en direct avec leur public ou qui tournent aussi énormément.
Donc,
qui donne des concerts.
Un vieux dinosaure qui n'y connaîtrait rien et qui ne veut pas savoir, qui veut juste être enfermé dans sa musique, a peu de chance d'être signé.
Je crois qu'il faut pas, on ne refuse pas, hein, mais je pense que c'est plus compliqué. Alors, parce qu'il y a, par exemple, je pense que Sokolov est quelqu'un de totalement autiste,
qui n'a jamais vu une interview de lui. Oui.
Et quand même, c'est quand même un très très grand musicien. Donc. Mais ils tournent énormément, donc je pense que l'un peut compenser l'autre, c'est-à-dire que s'il y a une tournée de concert importante, ça peut, entre guillemets, remplacer les réseaux sociaux un peu plus absents. Mais en général, c'est quand même important qu'il soit digitalement aussi présent.
Alors, je propose qu'on retourne à la musique avec le premier prélude et fugue en do majeur tiré du premier cahier du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach dans l'interprétation de Cristiano Holz. Le premier prélude des fugues en do majeur tiré du premier cahier du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, je vais y arriver, dans l'interprétation de Cristiano Holz, une parution du label Ramé, membre du groupe Out Here. Alors, Cristiano Holz était complètement inconnu. Que pouvez-vous nous dire sur ce musicien, Laetitia ?
Alors, c'est un musicien brésilien à la base, avec une sonorité plutôt allemande dans son nom de famille. Et il est tombé un peu dans la marmite de la musique depuis très très longtemps. Donc vers l'âge de 7 ans, il commence à s'intéresser à la musique. Et puis à 12 ans, il étudie le clavecin. et se rend aux Pays-Bas pour pouvoir suivre des cours auprès de notamment Gustave Léonard. C'est un de ses derniers élèves apparemment.
Gustave Léonard, donc, est un membre pionnier du développement du mouvement sur instrument authentique, donc, qui a développé le...
Oui, c'est un des pionniers dans cette matière-là.
Dans ce qu'on appelle le mouvement baroque.
Exact, oui. Voilà. Et il a fait même des masterclass avec Pierre Rantaille, et donc il s'est vraiment intéressé à plusieurs instruments, non seulement le clavecin, mais aussi le clavicorde, l'orgue. Et alors, je crois que cet enregistrement, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait sur un... Donc c'est une copie. Ce n'est pas un instrument d'origine, mais qui a un clavier, enfin je ne connais pas très bien les termes techniques, mais qui permet justement de donner beaucoup plus de nuances dans son interprétation.
Ça m'a vraiment frappé.
Donc selon lui, probablement Bach aurait destiné ce répertoire à ce type d'instrument, en fait. Il connaissait le facteur d'un instrument d'origine. Ils avaient commandé plusieurs clavecins qui ont été vendus à la cour là où ils travaillaient. Donc, Bach avait connaissance de ce type de clavecin. Et donc, Christiano en fait la déduction que probablement il connaissait cet instrument et du coup aurait composé cette œuvre pour ce type d'instrument.
Alors, je recommande cet album qui m'a vraiment beaucoup surpris. Donc, c'est Christiano Holz qui joue donc le premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Là, on va revenir au groupe Out Here. Alors, ce groupe, justement, parvient à développer la renommée de certains artistes au-delà des plus grandes espérances. On pense à Vox Luminis, au ténor Reinhard van Mechelen, que nous aurons le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans cette émission. On pense aussi au claveciniste Justine Taylor, mais aussi à l'accordiste Sarah Willis. Alors, dites-nous, Laetitia, existe-t-il une recette pour rendre un artiste connu ?
Alors, recette, je crois pas, mais ce qui est intéressant, c'est que les artistes que vous avez choisis ont pratiquement tous gagné des prix. Et notamment Vox Luminis, le premier dont vous citez, ils ont gagné le Gramophone Award, qui est un des récompenses les plus prestigieuses dans le domaine de la musique classique. Et c'est par ce biais-là qu'ils ont commencé à tourner dans le monde entier. Reinhard van Mechelen, bon, lui, il a travaillé avec William Christie, avec des très grands ensembles. Du coup, je pense qu'il avait déjà, entre guillemets, une renommée qui se construisait. Justin Taylor, il a gagné le MAF Festival. Donc, c'est aussi un concours très important. Et donc, par ce biais-là, j'imagine qu'il a pu décoller. Et je crois que... je vais faire un peu mon cocorico, mais je pense que les labels, entre guillemets, les disques, sont aussi des vecteurs pour les musiciens pour se faire connaître. C'est-à-dire que le fait d'enregistrer chez Alpha ou chez Richard Carr est un gage de qualité qui fait que des salles de concert se penchent sur nos disques et se disent bah, « Tiens, on programmerait bien cet artiste. » Donc c'est en tout cas, le Gramophone Award, c'est grâce à Richard Carr qui a eu le nez creux et qui s'est dit que Vox Luminis était un ensemble extraordinaire et du coup ils l'ont récompensé et par ce biais-là, Lionel Meunier vous le dira, c'est suite à ce prix qu'ils ont été demandés partout et maintenant ils tournent aux États-Unis, dans toute l'Europe, ils sont demandés partout.
Ça veut donc dire qu'un disque reste quand même assez indispensable pour développer la carrière d'un artiste.
Mais je pense que c'est presque comme une carte de visite, en fait. C'est vraiment de dire, voilà, ce label croit en nous. Et bon, le dernier exemple que vous avez parlé, c'était Sarah Willis. Et c'est quand même cornettiste d'un orchestre en Allemagne. Donc, cornettiste, j'en ai peu qui sont aussi connus. Et elle a réussi à créer des projets un peu particuliers pour sortir un peu de la musique classique rigide d'une certaine manière, où elle fait de la musique cubaine, elle revisite la musique de Mozart avec de la musique cubaine en fait. Donc elle a fait aussi autour de ça des clips vidéo, elle a fait un DVD, donc elle essaye de rendre cette musique aussi accessible.
Ça, c'est un très gros succès, je pense.
Ça, c'est un de nos best-sellers pour le moment, oui.
Sarah Willis, l'accordiste. Alors, vous aviez fait référence au concours. Parmi les concours de musique, il y a évidemment le concours international Reine-Elisabeth de Belgique. Alors, des artistes comme la soprano Jodie De Vos ou le violoncelliste Victor-Julien Laferrière ou même le dernier lauréat du concours, Jonathan Fournel, ont tous été des lauréats du concours Reine-Elisabeth. Existe-t-il une collaboration entre le concours Reine-Elisabeth et le groupe Out Here ?
Alors, D'une certaine manière, oui, mais totalement informel, en fait. C'est que, comme vous savez, le concours Anne-Elisabeth exige, enfin, est terriblement exigeant pour les musiciens, et du coup, c'est une source de pépites, de talents plus extraordinaires les uns que les autres. Et donc, en gros, mi-mai, ça a été tous des coups de cœur, en gros. Par exemple, on va aussi faire un CD avec Sergei Redkin, qui était également je crois qu'il était le deuxième prix. Donc c'est un coup de cœur, il est venu jouer dans le festival qu'on anime aussi dans les Pouilles, et Charles Adriansen a tombé complètement sous le charme de son jeu, et du coup a dit il faut aussi faire un disque. Donc il n'y a pas vraiment une collaboration structurelle, on va en avoir une prochainement, c'est-à-dire qu'on va commencer à diffuser, à diffuser les archives du concours Anne-Elisabeth. Donc là, il risque d'avoir des choses très intéressantes qui vont sortir.
Alors, je propose de justement écouter Jonathan Fournel, donc le dernier premier prix du concours Reine-Elisabeth en 2021, dans l'Andante Espressivo de la troisième sonate pour piano en fa mineur de Johannes Brahms. L'Andante expressivo de la troisième sonate pour piano en fa mineur de Johannes Brahms par Jonathan Fournel, une parution du label Alpha. Alors Laetitia, au-delà de vos activités de directrice de promotion chez Out Here, vous êtes directrice du festival Mus Salentine en Italie. Alors comment décririez-vous ce festival?
Alors ce festival donc, qui a lieu dans le sud de l'Italie, à Alessano, sud des Pouilles, c'est un festival absolument délicieux, qui se veut très confidentiel, un peu trop peut-être, mais qui se joue dans un palais qui va du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, et dans un écrin absolument délicieux. Et on fait venir des artistes de haut niveau donner des concerts, mais c'est plutôt de la musique de chambre, ou parfois on fait venir un chœur, et donc à ce moment-là, ça exige une salle plus importante, donc on va à la cathédrale d'Otrante, qui est un magnifique, magnifique endroit. Et donc, oui, on fait une série de concerts qui est développée sur deux éditions, une au milieu de l'été, et qui dure plus ou moins une semaine, et une mi-septembre, donc plus en arrière-saison, qui permet d'avoir un climat un peu moins chaud. Et en général, ça se joue dans une salle de concert qui était l'ancien pressoir d'huile d'olive. Donc, il y a encore la grande meule pour presser les olives, et un magnifique Steinway pour des concerts de piano. Donc
depuis combien de temps ce festival?
Alors il existe depuis, je dirais, 9 ans. Moi, ça fait 8 ans que j'ai rejoint l'équipe. Et en fait, c'est Charles et Diane Adriansen qui sont tombés amoureux de cette région. Et en fait, il y a très peu de concerts de musique classique de haut niveau. C'est plus la pizzicata ou des fêtes foraines et des choses comme ça. Et du coup, ils se sont dit, mais pourquoi pas faire venir nos musiciens dans cet endroit qui est absolument magique, et de donner des concerts, mais dans une ambiance tout à fait bon enfant, familiale. Et ce qui permet aussi à Charles Adriansen de se dire, bah, tiens, je voudrais écouter tel musicien pour voir si au niveau enregistrement, ça pourrait être intéressant ou pas.
Donc c'est aussi un petit peu un laboratoire.
Exactement. Ou alors de fidéliser des artistes. Par exemple, cette année, on a eu le Poème harmonique, avec qui on enregistre depuis près de plus de 20 ans, je pense. Et donc, c'était un peu un moyen. Enfin, par ce biais-là, ça permettait de se rapprocher d'eux, de les rencontrer, parce qu'on n'a jamais le temps, en fait. On est toujours...
passer du temps avec eux.
Voilà, exactement. Et aussi au public, d'ailleurs, de pouvoir, après le concert, de discuter, de prendre un verre et de parler avec les musiciens. La jauge est 130 personnes. Donc, c'est pas énorme. En plus, avec la pandémie, on a dû encore plus réduire. Et donc c'est assez intimiste. Parfois aussi, on le fait sur la place du village. Donc, il y a une connotation assez amusante avec les enfants qui font du vélo autour. Le public est assez, donc majoritairement italienne. Il y a quand même de plus en plus des aficionados de l'étranger qui viennent au festival. Mais je dirais que c'est un public italien. Il y a même celle qui vend des brosses à dents au coin de la rue, qui est passionné de musique classique et qui vient suivre tous les soirs les concerts. Donc c'est un public assez hétéroclite, je dirais, de gens qui sont de passage et d'autres qui sont là depuis toujours, et d'autres des mélomanes très avertis.
Alors on va revenir à Out Here. J'ai cru comprendre que pendant le confinement, les artistes, n'ayant donc plus de concerts, en ont profité pour enregistrer au maximum. Et donc des labels comme Out Here ont effectué beaucoup d'enregistrements. Est-ce que c'était vraiment...
Oui, alors on a eu... Il y a eu beaucoup de musiciens qui en ont profité pour enregistrer leur coup de cœur pour lequel ils avaient besoin de temps de pouvoir répéter ou ou de pas devoir faire ça dans l'urgence, où il y a eu, par exemple, c'était Péléas et Mélisande qui devaient être joués à l'opéra, et finalement, ça a été annulé à cause de la pandémie, mais les musiciens se sont dit, mais pourquoi pas en faire un projet d'enregistrement.
Et donc, ils vous ont contacté pour pouvoir...
Voilà. Réaliser. Du coup, là-bas, c'était pas du tout prévu pour l'enregistrement, et ils ont décidé de le faire, et ça a été absolument génial, parce que ils ont eu le temps de répéter, de prendre le temps d'aller au fond des choses et de pouvoir rendre un enregistrement hyper intéressant. Parce qu'en plus, ce sont des jeunes, c'est un très jeune chef et des jeunes chanteurs. Donc, ça permet de découvrir aussi la nouvelle génération.
Alors, j'ai justement eu l'occasion de lire des critiques, mais vraiment tout à fait laudatives du résultat. Je vous propose justement d'écouter un extrait. Il fait sombre dans les jardins. Donc c'est un extrait du premier acte du Péléas de Mélisande de Claude Debussy avec Stanislas de Barberac, Shiria Skerat et Jaline Bachle. L'Orchestre national de Bordeaux est placé sous la baguette de Pierre Dumousseau.
Cette nuit,
Il fait sombre dans les jardins, extrait du premier acte du Péléas et Mélisande de Claude Debussy avec Stanislas de Barberac, Shiria Skerat et Janina Bacle. L'Orchestre National de Bordeaux était placé sous la baguette de Pierre Dumousseau. Alors Laetitia, nous avons comme tradition d'offrir à nos invités de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter?
Alors moi j'aime beaucoup Schubert et c'est le chant du cygne qu'on vient de sortir chez nous avec... Julien Prégardien et Martin Emschen.
Ça, c'est un album qui vous a beaucoup plu?
Beaucoup, oui. Alors,
on va écouter donc Stenchen, tiré du cycle de mélodies, le chant du cygne de Franz Schubert par Julien Prégardien qui est accompagné de Martin Emschen.
Und schlau